Bonsoir, c'est Ondes Noires et nous sommes ravis donc de vous présenter une émission sur l'actualité du polar.
Bonsoir Jacques, qui est Corinne.
Bonsoir Corinne, oui c'est vrai.
Aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va changer un petit peu puisqu'on va vous parler d'un livre qui nous a beaucoup enthousiasmé, qui est un livre pour adolescents qui s'appelle Rouge Métro, mais pour ados dans une collection ado, mais que moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Et pour en parler, nous avons la chance d'avoir en direct son auteur, Claudine Galéa. Claudine Galéa, bonsoir.
Bonsoir.
Donc je disais que ce livre m'a vraiment beaucoup intéressée. Alors avant d'en parler, on va vous présenter un petit peu. J'ai trouvé plein de choses sur vous et surtout plein de cordes à votre arc. Donc quand on vous demande quel est votre métier, qu'est-ce que vous dites ?
Je suis écrivain.
Vous êtes écrivain, vous faites aussi beaucoup de théâtre apparemment ?
En fait, j'ai beaucoup écrit pour le théâtre, un petit peu moins maintenant parce que j'écris beaucoup de romans et de livres pour la jeunesse et que j'ai pas le temps de tout faire. Mais en fait, j'ai d'abord écrit du théâtre pendant plusieurs années.
Oui, vous faites aussi donc j'ai été assez surprise. Vous avez aussi écrit un livret d'opéra.
Oui, absolument, avec un compositeur qui s'appelle Ahmed Essiad. L'opéra n'a pas encore été créé, mais oui.
Ah ben je l'espère parce que
j'aime bien travailler avec des partenaires très différents.
Et pour finir, donc chroniqueur littéraire à la Marseillaise aussi.
Voilà.
Voilà. Alors, en 2003, un premier roman, je précise pour adultes, aux éditions du Rouergue jusqu'aux eaux.
Oui.
Et puis aussi deux romans précédents pour la jeunesse, Sans toi et Entre les vagues.
Alors, Sans toi, c'est pas tout à fait un roman, c'est un album, enfin un livre avec des images pour les enfants, mais qui peut aller jusqu'aux adultes, oui. Mais c'est pas un roman, c'est plutôt un album, ce qu'on appelle les albums.
Qui est d'ailleurs coup de cœur au site pour le portail pour la jeunesse Ricochet.
Ouais. Ouais.
Hautement recommandable. Voilà, et donc aujourd'hui, j'aimerais beaucoup parler avec vous de Rouge Métro, donc, qui est à la collection Do à Do Noir. Et d'abord, peut-être que vous présentiez un petit peu Cerise, le personnage principal.
Donc Cerise, j'ai un petit souci, c'est que je m'entends parler dans le téléphone, alors c'est...
Ah oui, effectivement.
Je ne sais pas ce que je pourrais faire, mais c'est assez désagréable en fait.
Je ne sais pas quoi vous répondre là.
Ok. Alors Cerise a 15 ans, elle prend le métro pour aller au collège, elle est en classe de 3e. Et c'est une jeune fille, comme sont beaucoup d'adolescentes et d'adolescents, qui est très sensible, enfin qui se laisse traverser par le monde. Pour moi, l'adolescence, c'est cet âge-là où en fait on est dans un état d'empathie maximum. Et elle est extrêmement sensible à tous les SDF qui, dans le métro, demandent de l'argent, parlent, jouent de la musique, etc.
Oui.
Et cette sensibilité qu'elle a envers les autres, parce qu'elle ne l'a pas simplement envers les SDF, elle l'a envers toutes les personnes, quoi. Très très vite, elle a été complètement curieuse d'écouter les conversations des gens dans le métro, assise en face d'elle. Elle est happée par les mots, on va dire, voilà.
Elle est happée par les mots. D'ailleurs, elle aime beaucoup la lecture. Elle parle de tous les livres qu'elle a envie d'emmener en vacances. Et justement, quelques jours avant de passer le brevet, vous l'avez dit, elle est en troisième.
Oui.
Donc c'est quand même une adolescente qui, contrairement à beaucoup de littérature pour la jeunesse que l'on lit, qui n'a pas vraiment de problème. Elle est de parents divorcés, mais
non.
Elle n'est pas non plus perclue de problèmes.
Ah non.
Voilà, c'est une... Et dans le métro,
ça va
justement...
Mieux parce que ça y est, je ne m'entends plus parler.
Tant mieux. Tout va bien donc maintenant. Donc on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Il y a un jour où, dans le métro, tout bascule.
Oui.
Elle vit l'horreur totale. On ne va pas en parler parce que c'est quand même... s'il y a un suspense, c'est ce qu'il y a dans le livre, c'est-à-dire ce qui lui est arrivé.
Oui.
Mais pour moi, la grande, grande réussite de ce roman, c'est que ce n'est justement pas le sujet principal, l'horreur qu'elle a vécue, mais comment elle va vivre après ça. Comment une adolescente va réagir.
C'est
donc l'évocation de l'après-drame. Vous avez fait pour en parler avec ces mots justes d'adolescente ?
Écoutez, je crois qu'en fait, ça fait longtemps que je vais parler des adolescents. Dans mon théâtre, j'ai écrit des pièces. En certaines, on va dire que les personnages principaux étaient des adolescents. Je pense notamment aux Idiots, où je m'étais inspirée de deux faits divers d'adolescents, dont un qui était très célèbre à l'époque, il y a une douzaine d'années maintenant, une dizaine d'années, oui, 97, c'était Florence Ray et Audrey Maupin. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces jeunes qui avaient fait un casse à Nanterre.
Tout à fait.
Il y avait eu une course en voiture, Audrey était mort, ils avaient tiré sur des flics, enfin bon, c'était l'horreur. Et donc j'avais... elle est en tôle, hein, toujours. J'avais utilisé je m'étais inspirée plus exactement de ce fait divers et d'un autre qui n'était pas connu du tout. J'avais trouvé un compte-rendu dans un journal lorrain d'un jeune couple qui s'était jeté sous l'Orient Express. Elle avait 13 ans et lui 23 ans. Et en fait, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, mais très longtemps, je ne pensais pas écrire pour la jeunesse. C'est une pièce pour adultes qui allait aussi pour les adolescents. Et puis, j'ai découvert en écrivant pour la jeunesse qu'au fond, j'étais très en phase avec l'adolescence, avec cet âge-là, et que ça faisait très longtemps que je les faisais parler, ces adolescents. Et quand j'écris mon premier roman, l'héroïne principale de Jusqu'aux os, c'est une fille qui a 15 ans. Donc, j'en ai pas eu conscience, en fait, d'emblée. Maintenant, je peux dire que oui, effectivement, je suis restée en connexion, peut-être, avec l'adolescente en moi, quoi, avec cette... ce que je vous disais, cette forme d'empathie et ce sens et ce goût de l'absolu aussi, c'est-à-dire des sensations entières, quoi, cette entièreté qu'on a à cet âge-là, qui peut vous faire basculer d'ailleurs. Hein.
Tout à fait.
Voilà, alors soit on bascule, soit on devient plus fort, et Cerise, elle devient plus forte. Effectivement, elle raconte l'histoire 7 mois après le drame. Et c'est sa manière à elle, non seulement de se sortir de cette histoire-là, mais aussi de raconter quelque chose de son rapport au monde qui ne lui va pas, quoi. Qui ne lui va pas. Les adolescents sont aussi des êtres qui ne se satisfont pas du monde tel qu'il est.
Effectivement, et justement, les conseils que lui donnent les adultes ne lui conviennent pas du tout, comme on le sait pour beaucoup d'adolescentes, mais elle en parle très très bien. C'est-à-dire que aussi bien les psys que ses parents qui sont... en plus très attentif, c'est pas lui disent le temps va te faire oublier tout, et en fait elle sait et elle est intimement persuadée, et on a vraiment l'impression qu'elle a raison, que la seule manière de s'en sortir, c'est de dire, de raconter et de se souvenir. Absolument. De tout, avec une acuité très particulière.
Mais ça, c'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose en quoi je crois, c'est-à-dire c'est quelque chose que je fais dire à une adolescente, parce que je crois qu'adolescent, on a cette force-là, cette révolte-là présente, qui est de dire, les parents veulent toujours vous protéger, hein, je veux dire, c'est un peu le rôle des parents, c'est-à-dire.
Surtout en Méditerranée.
Voilà. Et les adolescents ne veulent pas être protégés. Et moi, je crois que dans la vie, je ne veux pas être protégée. C'est-à-dire que je pense que pour vivre, il faut pouvoir se battre et il ne faut pas être protégé. On ne peut pas être protégé dans le monde dans lequel nous vivons. Et le seul moyen, de pouvoir vivre dans ce monde-là, c'est de ni se fermer les yeux ni les oreilles. Et au fond, c'est quelque chose, donc c'est quelque chose que je lui fais dire, je ne veux pas oublier, hein, effectivement. Je vais tout raconter dans le moindre détail, parce que je crois aussi que c'est en disant les choses qu'on les regarde vraiment et qu'on peut ne plus être dépendant de ces choses-là, que ce soit des choses douloureuses, personnelles, mais aussi des choses politiques, hein, voilà. Donc ça, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Ne pas écrire une littérature qui rassure.
Alors, je vais me permettre de lire un petit passage, justement, oui. Quand Cerise explique cela, pour montrer aussi la qualité du style. « J'essaie de me souvenir, de mettre dans l'ordre. Je me souviens, je fais partir les choses, pardon, de cet endroit-là, là. » Je ne sais pas nommer un endroit dedans qui fait mal quand je passe dessus. Je passe dessus sans m'arrêter, je vérifie. La douleur est toujours là, elle ne part pas. C'est même le contraire, elle augmente. Comme la petite boule que j'ai sur le bras juste au-dessus du poignet. C'est rien, une petite boule de graisse. Le docteur a dit ne pas s'inquiéter, si elle grossit, on l'enlèvera. C'est un kyste. Eh bien, l'endroit là, c'est pareil, ça fait une boule. La boule durcit au fil des semaines, des mois. Ça fait 7 mois maintenant. Chaque jour, je sens qu'elle durcit. Plus je passe, plus elle durcit. Alors j'ai décidé de m'arrêter, de cesser de faire semblant, d'arrêter de glisser, de ne faire que passer, parce que ça ne va pas passer tout seul, justement. Ça ne va pas passer comme ça. Tu finiras par oublier, dit ma mère. Sûrement pas. Je ne vais pas oublier. Et à force de faire comme si, c'est là que ça fait mal. Comme si, c'est un mensonge. Comme si je pouvais oublier. Ça passerait bien au théâtre aussi, je crois.
En fait, ce que j'écris passe bien à l'oral, on va dire. Voilà. Il y a une forme d'adresse, je crois, dans ce que j'écris.
Tout à fait. Alors, le sujet qui est abordé aussi avec beaucoup de pudeur et d'empathie, c'est quand justement Cerise, qui est à l'écoute du monde et qui veut s'ouvrir au monde, entend dans le métro tout ce qui se dit, mais a une empathie particulière pour les SDF, pour les clodos qui montent et qui assènent ces discours qu'on entend régulièrement dans le métro à Paris. Est-ce que c'est important pour vous? Est-ce que ça donne un sens à la littérature adolescente de parler de ces sujets-là?
En fait, j'ai pas réfléchi dans ce sens. Je peux répondre oui à votre question, parce que je crois que... Je peux répondre oui au sens où je crois qu'effectivement... c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas se cacher le monde tel qu'il est. Alors, bon, c'est vrai qu'à Paris, on a cette sensation de violence, parce que ça fait violence, hein, ça fait violence. C'est ces gens qu'on finit par ne plus écouter. Moi, ça me fait violence comme être. C'est pour ça que j'ai écrit ça. C'est à force de subir cette violence et d'être dans cet état d'impuissance et à la fois d'impuissance, de révolte, d'habitude, de choc, que j'ai décidé d'écrire là-dessus. Évidemment, pour les enfants qui vivent à la campagne, ils seront peut-être plus déboussolés. Enfin, ils vont peut-être moins percevoir la chose. Mais
c'est important qu'ils soient quand même au courant, justement.
C'est important qu'ils soient au courant. De toute façon, des SDF, on en voit absolument partout. C'est vrai que dans les villes, il y a un concentré de misère, hein, de misère sociale, de misère humaine, tout simplement. Et je dirais que le roman noir, que ce soit le roman noir ou le polar, a toujours été le lieu où on pouvait aborder au fond des sujets politiques par le biais de la story. Hein,
tout à fait. Le roman social par excellence.
Ouais. Alors, sans être en même temps, pour moi, c'est d'abord du roman, c'est d'abord de la fiction, quoi. Mais pour moi, en même temps, la fiction est politique. En même temps, c'est pas un discours. Voilà, je me méfie beaucoup de faire passer des discours. Je ne cherche pas à faire passer de messages. Je cherche à faire passer des sensations, ce qui est très différent. Je pense que c'est à travers les sensations que chacun peut se construire sa vision du monde et les messages qu'il a envie de s'adresser et d'adresser aux autres.
Je vous interromps parce qu'en plus des sensations, c'est aussi dans votre livre des émotions.
Oui, sensations, émotions, je suis d'accord, complètement. Complètement, mais parce que pour moi, l'émotion est basée, je pense, sur des sensations physiques très fortes. Je pense qu'il est impossible de prendre le métro. Enfin, pour moi, c'est impossible sans être saisi physiquement par ce qui se passe.
Et puis par l'indifférence de l'autre côté aussi,
mais oui,
qui est aussi violente finalement que les discours de ces gens qui montent dans le métro. Donc on parle un petit peu là du sens de la littérature jeunesse et du polar jeunesse. C'est quelque chose qui revient souvent, en particulier dans les festivals. On a souvent des tables rondes ou des cafés littéraires autour de cette littérature.
Oui.
Est-ce que vous interdisez des choses quand vous écrivez pour les jeunes par rapport à une littérature, on va dire, entre guillemets, plus adulte?
Non, rien. Rien du tout. Et pour moi, vraiment, évidemment, tous les romans pour adultes ne sont pas pour ados. Encore que moi, quand j'étais ado, je lisais des choses terribles. Mais tous les romans pour ados sont des romans pour tout le monde. Et inversement, quoi, les albums, c'est pour tout le monde. Donc, je ne m'interdis absolument rien parce que je pense qu'il n'y a rien à s'interdire. Et je pense d'ailleurs que dès l'enfance, il n'y a pas grand-chose à s'interdire. Tout simplement parce que il y a une grande liberté d'accueil et de réaction de la part des enfants à ce qu'on peut leur raconter. Évidemment, il ne s'agit pas de les violer, hein, soyons bien clairs là-dessus.
Tout à fait.
Ni de les choquer inutilement. Mais à l'adolescence, je pense qu'on est déjà... On est au moment d'ouverture maximum avec le monde. Après, il y a le travail littéraire, c'est-à-dire comment faire que la réalité soit transmise par la fiction, c'est-à-dire par un filtre. Il y a le filtre de l'écriture, et ce filtre, il est très important. quelque chose qui est mal écrit et quelque chose qui est bien écrit ne va pas avoir les mêmes influences, les mêmes conséquences pour le lecteur.
Tout à fait. C'est pour ça qu'on a tant reproché d'ailleurs, au temps où nous étions jeunes, à la littérature, entre guillemets, policière de notre époque, la mauvaise qualité. Et on est tellement content maintenant d'avoir des auteurs de grande qualité, des auteurs qui écrivent en général des polars pour adultes, arrivés dans des collections telles que Dos à dos ou bien encore Souris Noire ou Rat Noir, pour écrire. Et je vais citer, pour aller un petit peu dans votre sens, un autre écrivain qu'on aime beaucoup, qui est Stéphanie Benson, qui dit en fait, qui va dans votre sens en disant... Effectivement, il ne faut rien leur cacher, il faut dire la vérité, et c'est là seulement qu'on commence à les respecter.
Oui, absolument. Il ne faut pas infantiliser les enfants, ni les adolescents, ni les enfants. J'ai remarqué, en écrivant pour la jeunesse, et ça me passionne, il faut simplement leur parler avec des notions qu'ils peuvent entendre. Mais ils sont prêts à faire, d'ailleurs ce n'est pas des efforts, mais ils sont prêts à peu près tout entendre, à condition qu'on ait un vrai dialogue avec eux, c'est-à-dire qu'on leur parle vraiment.
Tout à fait. Et justement, est-ce que les réticences ne viennent pas des parents, des adultes, voire des enseignants ?
Bien sûr, parce qu'il y a une peur. Aujourd'hui, on vit un monde extrêmement violent. Hein, et donc, la protection, le désir de protéger grandit. Alors, c'est inversement proportionnel à l'image. C'est-à-dire que plus l'image est violente et surtout incontrôlable... Plus les parents, tous les prescripteurs pour la jeunesse, on va dire, hein, pas simplement les parents, veulent contrôler ce qui est à portée de leur contrôle, c'est-à-dire notamment les livres, les dessins, les choses comme ça. Et ça, on le remarque depuis une dizaine d'années, il y a une grande peur qui s'exprime par cette volonté de contrôle. Voilà. Les enfants... Je veux dire, le petit chaperon rouge, dans sa première version, c'est-à-dire lorsque le loup mangeait la grand-mère, ça n'a jamais plus davantage fait peur aux enfants qu'autre chose. Ils sont capables d'affronter des émotions très violentes qui sont évidemment liées à la mort, sous toutes ses formes et sous tous ses angles. Les parents sont moins prêts à ça, c'est-à-dire qu'ils ont peur pour eux. Mais avoir peur pour l'enfant, c'est quelque part lui faire peur.
Tout à fait. Je vais être obligée d'interrompre cette conversation passionnante parce que malheureusement le temps passe trop vite. Donc je vais rappeler les coordonnées, les références du livre en le recommandant hautement, y compris aux enseignants s'ils veulent faire lire de la bonne littérature à leur chère tête blonde. Et vous remercie infiniment d'avoir passé ces quelques minutes avec
merci
nous.
Merci à vous. Vraiment.
Donc, Rouge Métro, donc de Claudine Galéa, la collection Dos à dos noir aux éditions du Rouergue. Et on en espère encore beaucoup des comme ça. Continuez à écrire.
Merci
beaucoup.
Merci
au revoir
pour votre émission. Au revoir.
Au revoir.